Bon, je pense qu'on va, peut-être commencer. Merci, merci d'être venu. Qu'on est bien installé maintenant, tranquillement. Donc, ce soir, pour continuer notre petite série de discussions de causerie sur un cours en miracle, nous avançons paisiblement vers la fin de notre objectif, ce qui est une prise de conscience de l'ensemble de ce chemin, qui était un défi, au moins pour moi, pour faire d'une façon synthétique, simplement parce que ce chemin parle vraiment d'un retournement complet de notre façon de comprendre le monde. Ça nous sort, en fait, ça nous présente un autre esprit. Et on n'a pas l'habitude de parler de la vie, des choses comme ça, simplement parce qu'on a tellement l'habitude d'un esprit, de notre façon de comprendre les choses, qu'en fait, quand on commence, on peut déjà avoir du mal à imaginer un autre esprit, littéralement. Ce n'est pas le même esprit. Nous avons une autre faculté d'esprit. Qu'on peut identifier avec les plus grands sages. Quand on regarde dans les yeux de ces grands sages, on sent leur esprit n'est pas posé au même endroit. Ils voient des choses différemment, ils ressentent des choses différemment, ils éprouvent des choses différemment. Leur expérience de la vie est différente. Parce que toute leur attention est placée dans un autre endroit. Pourtant, ils sont toujours présents avec nous. Le corps est là, la voix est là, mais on sent qu'ils sont présents dans un autre endroit, là où nous ne sommes pas. Et ils nous invitent par leur présence de les rejoindre là, et le cours nous parle de ça, de cet endroit magnifique que nous avons tous. C'est une faculté que nous possédons tous. Ce n'est pas de l'imaginaire. Il y a beaucoup de chemins qui parlent de notre faculté spirituelle, c'est sûr. Et cette fois-là, nous parlons littéralement d'une sorte de muscle ou capacité ou endroit chez nous que nous n'avons pas vraiment soupçonné jusque-là, qui est aussi puissant, voire bien plus encore, que notre faculté de réflexion actuelle, que notre... Je ne vais pas dire cerveau parce que ce n'est pas le cerveau. Le cerveau est juste un outil. On peut parler d'une mental parce que ça réfléchit, mais ça ne réfléchit pas de la même façon. Ça comprend les choses différemment. C'est un peu difficile d'en parler simplement parce que quand nous y sommes et nous y avons été tous à un moment ou autre, nous comprenons quelque chose de différent par rapport à la vie. Nous avons une autre expérience soudain de la vie. Là où on attendait peut-être d'être dérangé ou inquiet par rapport à quelque chose, soudain, on sent une sorte d'apaisement où on se sent bien. Et on ne peut pas expliquer, ça ne vient pas avec des mots pour raisonner, mais il y a une certaine intelligence derrière. La promesse du coup, c'est de nous emmener, de nous présenter l'existence de cette faculté. L'esprit juste, et de nous offrir des outils pour y accéder de plus en plus. Et quand nous faisons ceci, éventuellement, nous passons de plus en plus de temps dans cet endroit magique et magnifique, qui est la vraie source ou le siège d'amour chez nous. Éventuellement, nous commençons à voir la vie différemment. Nous commençons à voir quelque chose apparaître derrière les apparences. Là où les choses semblaient fragmentées, ce que nous avons fait avec la vie ici, là où la vie semblait fragmentée en 7 milliards de différents morceaux, nous voyons maintenant quelque chose de bien différent. Ce que l'ego a fait avec ce monde, c'est notre esprit faux, l'esprit qui s'est investi dans la division et la fragmentation pour ses propres fins, ce qui lui nous a montré, c'était un monde de 7 milliards de différentes âmes, 7 milliards de différences, 7 milliards de relations différentes, 7 milliards de différentes possibilités de ressenti, de différentes possibilités de bonheur et de gêne, et voilà, plein d'autres expériences. Alors que ce que le cours nous offre, c'est la possibilité de commencer à voir ce qui ressemble à une relation à une autre, d'une relation à une autre, ce qui est pareil. Et c'est comme ça, en regardant toutes ces différentes relations, que éventuellement nous allons voir les similitudes. Ces similitudes vont nous montrer l'unité de vie derrière, qu'il y a une unité de vie derrière toutes ces apparences. Et ça, c'est la fameuse unité que nous avons toujours cherchée. Ce n'est pas que nous sommes le même être ici, bien sûr, parce que nous sommes 7 milliards de différents corps, et différentes expériences spécifiques, différentes histoires, mais on commence à ressentir quelque chose derrière qui est exactement semblable. Donc, nous pouvons dire que si je vais essayer de trouver la façon la plus synthétique de donner des messages, la clé du cours, l'un de ces messages, c'est que nous essayons de voir ce qui est semblable et ce qui est pareil dans tout ce qui semble différent. La façon que nous arrivons à faire ça éventuellement, c'est simplement en focalisant dessus, en regardant des différentes situations, des différences, et en se posant la question, qu'est-ce qui pourrait avoir pareil derrière ces apparences? Et nous appelons ça simplement changer le but. Là où l'objectif, ou le but, ou l'intention de l'ego dans toutes les rencontres de nos vies était d'utiliser chaque rencontre pour avoir une expérience différente, entre guillemets, pour rencontrer quelqu'un différent, pour avoir une conversation différente. « Ah tiens, j'ai croisé quelqu'un, ceci, cela, ah, il m'a fait penser, machin, et tout ça. » C'était différent, quelqu'un différent. L'ego a besoin constamment de faire des rencontres différentes, de voir les différences avec les gens. C'est essentiel pour lui, parce que, après tout, la définition qu'on lui a attribuée, c'est qu'il est notre désir de différence, de différenciation en dehors du ciel. Nous allons revenir sur ce point un petit peu plus tard, mais nous allons parler de quelque chose de très spécial tout à l'heure, ce qui est le pardon. Je vais vous le présenter d'une façon relativement claire, ce que nous appelons les trois étapes du pardon. Dans un premier temps, ça semble avoir un aspect un petit peu mécanique. Mais c'est juste parce que c'est plus facile à le comprendre comme ça. Mais par la suite, nous allons voir, c'est beaucoup plus intuitif que mécanique, c'est juste une façon de le présenter. C'est une solution. Le pardon est l'accès, notre accès vers l'esprit juste. Et ça, c'est la solution, avec une grande S. Et je voudrais commencer ce soir par dire que peut-être la chose essentielle pour pouvoir accéder à cet endroit magnifique qui est cette faculté insoupçonnée, occultée chez nous, c'est l'envie, c'est le désir. Les offrandes, les promesses de l'ego sont toujours très fortes dans notre esprit. Donc, d'une façon automatique, nous entrons dans une sorte d'automatisme de pensée quand nous rencontrons des gens, quand nous croisons des gens, quand nous faisons la vie. Il y a juste l'automatisme qui prend le dessus. On a des points de réflexion, des opinions, des différentes pensées. Et nous pouvons dire que nous avons adopté, en tenant la main de l'ego, nous avons adopté sa solution aux défis ici dans ce monde. Parce qu'on sent... On sait qu'il y a des défis dans ce monde. Il y a quelque chose, on ne peut pas se lever et juste dire, tiens, tout va bien. On sait qu'on va avoir des choses à régler, des choses à faire dans la journée. Une façon d'aborder les différentes questions, challenges, difficultés. Parce que l'ego a sa définition du problème de la vie ici. Dès l'instant qu'on se définit comme étant bien séparé de cette est un magnifique d'amour. Nous, nous sommes remplis, comme nous en avons parlé déjà plusieurs fois. L'inconvénient de cette individualité avec laquelle l'ego nous a dotés, c'est qu'en fait, c'est un état de non-amour, par définition. Parce que le seul état d'amour est un état d'unité totale. Donc, dans l'individualité, dans la séparation, c'est un état de non-amour. Et ce non-amour est caractérisé par un sens aigu de défaut, de quelque chose de défectueuse, de quelque chose qui tourne pas rond, de blâme, de honte, quelque chose manquante, culpabilité, colère, irritation, peur, terreur, voilà, on connaît le menu de l'ego. Donc, voilà la conséquence de ce choix de quitter notre esprit juste. C'est d'entrer dans l'esprit faux, qui est un état en dehors de l'amour, et donc un état de souffrance, un état de douleur. Il nous offre une définition du problème. Pour lui, le problème, c'est que le monde ne me convient pas. Je me lève le matin et je sais que dans ma journée, je vais devoir, pas forcément lutter, mais disons que contrôler, organiser, manipuler plein de différentes circonstances et plein de différents événements pour faire en sorte que le monde me donne ce qu'il me faut. Selon son interprétation, je ne possède pas la solution. La solution est dans le monde. Notamment, la solution est chez les autres. Si seulement je pouvais faire ce que je veux les autres personnes, je serais encore plus content, je serais encore plus heureux. Si je pouvais faire en sorte que ma journée passe bien, ça veut dire pour l'ego, tout le monde fait ce que je veux, on m'offre ce qu'il faut, les choses ne sont pas trop difficiles. Il a toujours une définition qui est en rapport avec l'extérieur. S'il ne fait pas trop chaud, s'il ne fait pas trop froid, s'il ne fait pas trop humide, si j'arrive à m'habiller comme il faut, que j'arrive à mettre ma main sur la bonne chemise avant de sortir et tranquillement, sans prendre une demi-heure, si j'arrive à démarrer la voiture, en hiver on sait que c'est difficile, si, il y a milliers de différentes façons que l'ego souhaite que la vie se passe et toujours focalisant sur l'extérieur. Et en faisant le rapport avec toutes nos discussions récentes sur les relations, il peut dire que une très bonne partie de cette envie que les choses se passent bien est en fonction des autres, d'autres personnes. Si seulement cette personne me faisait ceci, si seulement cette personne faisait cela, était comme ci, était comme cela. Si seulement cette personne arrêtait de parler comme ça, si, voilà. Pour l'ego, la solution est toujours dans les mains d'autres personnes. Et ce qu'il nous a légué, c'est une solution. La solution, c'est de discuter, argumenter, manipuler, contrôler, négocier, échanger, plein de différentes façons d'avoir un rapport avec d'autres gens pour faire ce qu'on veut, pour faire en sorte que les gens font ce que j'ai envie qu'ils fassent. Et ce problème du départ, nous avons vu et nous allons voir, c'est un faux problème. C'est un faux problème simplement parce que notre douleur n'a pas sa cause dans le monde, d'accord, que nous avons déjà dit plusieurs fois, mais dans un choix à l'intérieur de nous, simplement que nous avons basculé d'un esprit juste dans un esprit faux, où nous avons quitté en fait notre source, notre origine, pour avoir cette expérience d'individualité sortie du contexte du grand esprit d'amour, pour atterrir dans un monde relativement difficile, voire extrêmement difficile et pénible. Là, il y avait un choix que nous avons fait. Donc, l'ego a sa définition du problème de la vie, qui est faux, qui a donné naissance à toute une série de solutions qui sont fausses. Donc, il nous offre d'abord une définition d'un problème qui n'est pas le bon, et par la suite, Et là, c'est dire, mais c'est pas grave parce que j'ai toute une série de solutions pour vous aider avec tout ça, mais ces solutions sont fausses. Donc, si nous regardons bien, et ce n'est pas très difficile si on prête un peu attention, on peut voir à quel point, effectivement, on applique la solution de l'ego. C'est de vouloir gérer l'extérieur, de vouloir contrôler, de vouloir garantir le meilleur confort, les meilleures conditions pour le corps. Et à la fin de la journée, on n'est jamais vraiment convaincu forcément qu'on est aussi heureux qu'on a vraiment voulu être, qu'on a souhaité être. On ne peut pas dire qu'on dispose vraiment de ce sentiment de profond bonheur parce qu'on a eu ce qu'on a voulu. On passe par des journées, des fois, où on a entièrement tout ce qu'on voulait. Absolument, tout s'est déroulé comme il faut. Est-ce qu'on est dans un état d'exaltation à la fin de la journée? Pas souvent. Peut-être jamais. Est-ce qu'on peut se comparer à ces grands sages qui émanent une sorte de profonde paix et bonheur? Simplement parce que j'ai pu me garer comme il fallait, j'ai pu sortir des supermarchés comme il fallait, j'ai pas dépensé trop d'argent, j'ai eu un tas de différentes circonstances et conditions dans ma vie remplies aujourd'hui. Donc forcément, selon l'ego, je dois être dans un état d'exaltation à la fin de la journée. Ça manque un peu. C'est pas toujours forcément le cas. Pat, il y a des chaises pliantes là si tu veux. C'est bien, d'accord. C'est celle-là? Ah, d'accord, regarde. Voilà. Ah, il fallait dire. Oui, oui, j'ai vu, il y avait un truc. Et moi, en plus, j'ai bougé. Oui, en plus, si je suis là pour Brigitte, toi, tu vas me dire, je vais faire comme ça et comme ça. Je mets une main devant les lampes. Ah, réglé. Il y a peut-être d'autres lampes. Ah oui, voilà. Tu es dans un état d'exaltation, tu le sens,
je veux la suite.
Tu le sens, mais tu ne le sens pas, bah merde, ça ne marche toujours pas. On va l'avoir. C'est ce qui nous promet l'ego, c'est que le bonheur, l'exaltation, c'est une série de conditions que nous n'avons toujours pas atteint et c'est tout. C'est assez pathétique quand on pense à tout ce qui nous incite à faire. Donc, la raison que je vous parle de ça et que nous allons parler d'abord encore quelques minutes des relations d'amour particulière, c'est parce qu'il est essentiel de saisir deux choses avant de pouvoir accueillir la réponse. C'est de cerner à quel point il nous a offert et on a accepté, on a accueilli son faux problème avec une série de fausses solutions qui ne marchent pas. Ça, c'est essentiel que nous arrivions à cerner à quel point nous sommes dans l'automatisme de son faux problème avec ces séries de fausses solutions. De toujours penser que le problème est dehors, donc la solution, c'est de gérer, mieux contrôler, mieux organiser le dehors, l'extérieur. La deuxième chose que nous devons apprendre à apprécier, c'est que les solutions qu'ils nous offrent ne sont pas banales, ne sont pas sans conséquences. Mais ces solutions, si nous les étudions bien, sont terrifiantes. Les solutions qu'ils nous offrent sont pleines d'agressivité et de violence. Ce que nous allons voir dans quelques minutes. Si nous apprécions ça, que de toute façon, même si j'arrive à gober ces idées, que si j'arrive à régler l'extérieur, finalement, j'aurai atteint un état de bonheur et d'équilibre, quand nous comprenons la vraie nature des solutions qu'ils nous offrent, qu'il y a toujours un esprit de violence derrière, on arrive à cette position qui est la position 21 sur le schéma, où il dit « ça suffit », tout simplement. C'est la position de volonté que nous cherchons. C'est simplement l'endroit de honnêteté que nous cherchons. Sans cette... La position juste avant, c'est la position 20, je crois, où on est dans une malheur justifiée, c'est-à-dire on cherche à l'infini de régler l'extérieur. Oui, s'il te plaît, merci. On cherche à l'infini de régler l'extérieur, mais comme nous le savons tous, et il suffit juste de regarder la télé, regarder les films qui sortent d'Hollywood, personne n'est jamais satisfait dans ce monde. Tout le monde cherche et constamment. Et s'il est heureux hier, il faut qu'il recommence le lendemain pour atteindre cet équilibre qu'il cherche. Personne n'est heureux avec les solutions de l'ego. Mais tout le monde est justifié. On vit tous dans un état de malheur tant qu'on cherche pour la solution à l'extérieur. Mais la façon que nous l'expliquons, c'est que nous le justifions en disant « Oui, mais c'est parce que mon chef, il ne me paye pas encore assez. C'est parce que je n'ai pas encore le boulot qu'il me faut. Ah, c'est parce que ma femme, vous voyez, elle a été trop occupée vraiment de vraiment s'occuper de nous à la maison. Il y aura toujours une raison que les conditions ne sont pas optimales pour lui dans la vie. Et quand il ne trouve pas une condition optimale dans la vie, il déprime. Dépression, c'est simplement qu'on ne trouve pas vraiment. Donc, on sait juste qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et l'intérieur n'est pas un endroit joyeux quand on prend la main de l'ego. Donc, pour faire ce chemin, ces deux choses sont vraiment essentielles. Que nous comprenons à quel point ces défauts, c'est un faux problème, des fausses solutions basées sur un faux problème. Et si nous arrivons à voir la vraie nature de ces solutions, ceci va nous motiver pour trouver une vraie solution qui existe, qui a toujours existé, mais que nous avons occulté. Ce n'est pas que cet amour, que cette perspective n'existe pas et que c'est très difficile à voir. C'est que la partie de nous qui était toujours en mode automatisme de l'ego, de se lever le matin et chercher à régler l'extérieur, cette partie de nous a été tellement préoccupante et tellement convaincante que nous n'avons pas vraiment appliqué notre esprit et notre volonté pour dire « il doit avoir vraiment maintenant une autre façon de faire, un autre chemin ». Mais vraiment sans blague, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je ne peux pas et j'ai pas eu envie de continuer comme ça. Maintenant juste, nous allons passer juste un petit quart d'heure, 20 minutes à regarder quelques aspects des relations d'amour particulières qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Et c'est parce qu'il y a des choses qui passent pour normales dans les relations, qui sont des choses que nous acceptons tous comme comportement, comme façon de faire, qui ne le sont pas tout à fait quand nous regardons de notre perspective. Nous l'avons accepté comme normal simplement parce que c'est le mode d'opération de ce monde. Tout le monde va dire, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Et le jour que vous vous posez des questions sur ça, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as à te poser des questions sur ça? C'est normal d'être en colère, c'est normal ceci, c'est normal cela, c'est normal d'être irrité, d'être triste, d'avoir peur, et tout ça. C'est normal, comme mon prof dit, in an insane world, dans un monde de folie. C'est normal, une fois que nous sommes sortis de notre chez-nous, notre vrai chez-nous, et que nous nous sommes identifiés entièrement, corps et âme, littéralement avec un corps, nous sommes dans un état de folie. Parce que ce n'est pas notre vrai état de sagesse et d'esprit. Nous nous sommes identifiés entièrement avec un corps, donc forcément nous allons avoir peur, nous allons nous sentir vulnérables, sensibles. Donc quand quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas, je vais avoir un moment d'irritation ou de colère ou autre. Tout ça, ça semble entièrement normal dans ce monde. Mais ce monde est fou. Ce monde est fou parce que c'est un monde qui a gobé, qui s'est infusé, qui s'est imprégné entièrement de l'esprit de la séparation. En prenant la position que la séparation existe pour du bel et du bien. Pour du bel et du bien,
bien.
Oui, ça existe. C'est la réalité. au point que nous avons même des écoles de psychologie basées sur la dualité, basées sur une position métaphysique par rapport à la réalité. Ils ne le voient pas ainsi, ces corps, ces matières, ces écoles de psychologie. Pour eux, on n'a pas besoin de se poser la question « est-ce que nous sommes des individus ?» C'est ridicule pour du point de vue psychologique, ça sera la folie de poser cette question. Donc nous pouvons même dire que la psychologie classique, que ce soit freudienne, jungienne ou lacanienne, nous pouvons dire que c'est aussi une psychologie basée sur la métaphysique. Mais la métaphysique est sous-entendue. Parce que ça semble tellement normal un état de dualité que nous ne nous posons même pas la question « Ah, sur quelle base métaphysique est-ce que cette psychologie prend sa source ?» On ne pose pas la question. La question même semble folle à l'intérieur de ces systèmes de pensée tellement c'est basé sur le fait que nous sommes des individus séparés et différents avec un cerveau, une personnalité, un esprit différent et séparé des autres. C'est un point de vue métaphysique. Ils ne vont pas le dire ainsi, bien sûr. Ça semble être le domaine du spirituel. Donc le point de départ de la psychologie du cours, c'est qu'on prend un pas de recul et on pose la question, mais est-ce que cette hypothèse, mettons que c'est une hypothèse, ce n'est pas une fête, on retourne cette petit détail sous-entendu ou tellement compris dans la psychologie classique que nous sommes des individus séparés avec un esprit séparé et différent, nous mettons cette « fête » entre guillemets en question et ça devient une hypothèse. Le cours va dire « c'est une hypothèse fausse ». Nous ne sommes pas des individus séparés avec un esprit séparé et nous ne sommes pas différents. Nous sommes différents dans l'expression, mais ce que nous exprimons est pareil. Donc, prenons juste quelques petites minutes de plus. Je voulais juste vous lire. En fait, j'avais une paragraphe pour démarrer sur la leçon 68. Juste pour démarrer la petite discussion que nous allons faire sur les relations d'amour particulières. Parce que nous allons voir un comportement avec... Il fait un peu chaud ? Oui, ah oui, non, il n'y a pas de souci. S'il fait chaud, on va ouvrir un petit peu. Vous savez, moi, j'ai souvent chaud. nous allons parler juste quelques minutes pour finir notre discussion de la dernière fois sur les relations d'amour particulières, parce que nous sommes tous impliqués d'une façon ou d'une autre dans ce que le cours appelle les relations d'amour particulières, ce qui est simplement une relation d'amitié par rapport à une amitié d'adversaire ou de concurrence directe. Il y a des relations où nous savons nous ne sommes pas bien avec quelqu'un. Et ça ne dérange pas de trouver les défauts, les difficultés. Nous avons tous les gens qui nous irritent et nous n'avons pas besoin de chercher trop pour dire « bah oui, avec cette personne-là, je ne me sympathise pas ». Voilà. Mais avec les autres avec lesquels je me sympathise, il peut aussi avoir des traits d'ego. C'est plus subtil, c'est plus nuancé, mais ça vaut la peine de regarder. Et la raison, c'est parce que tant que nous pensons que les relations d'amour particulières nous tendent toujours ce que nous voulons dans ce monde, nous allons toujours courir après. Nous n'allons pas regarder vers l'esprit et l'esprit uni et parfait pour notre solution, nous allons regarder chez une autre personne. L'une des promesses les plus séduisantes de l'ego, ce n'est pas simplement que ce monde nous offre ce que nous voulons, argent, maison, confort, nourriture, repas, santé, etc. Mais l'une des promesses les plus séduisantes qu'il nous offre pour garder notre esprit bien ancré ici, c'est le paradis qui est offert par une autre personne. Il n'y a personne sur cette planète qui a échappé à ce rêve d'être en contact avec la personne qui va le faire sentir vraiment épanoui et bien. Même si c'est juste un instant dans la journée, un sourire ou voilà une amitié. Je ne dis pas du tout qu'il y a aussi, bien sûr, une autre façon de voir toutes ces relations, qui est la relation sainte dont nous avons parlé brièvement la dernière fois. Mais c'est juste pour couvrir les bases ici. Parce que ça, c'est une lacune si on n'en parlait pas juste quelques minutes. Donc, cette petite paragraphe ici, je vais vous lire, c'est 268. L'amour n'a pas de rancœur. Le vrai amour, bien sûr, il est par rancœur ici. Il faut comprendre tout ce qui comporte une ressenti négatif. C'est juste le mot qu'ils ont choisi pour englober tout ce qui est critique, jugement, condamnation, rancune, ce genre de choses. L'amour ne peut pas avoir de ressenti négatif par rapport à une autre personne. Je vous lis. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi, avec une grande S. Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de lui. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Ça c'est pas le livre que je pense y prendre avec moi, et j'avais souligné les passages, et donc ça c'est un livre vierge et je vois pas les passages. C'est pas très important, c'était juste une ou deux phrases de plus qui répétaient la même idée là. Donc c'est qu'ils ont fait un rapport direct entre le fait de tenir les rancœurs ou un ressenti négatif par rapport à une autre personne et l'impossibilité de connaître son soi. Et nous allons voir, c'est simplement parce que, puisque nous sommes unis, l'autre personne est toujours un reflet de moi-même. Donc tant que j'ai une pensée négative par rapport à une autre personne, forcément j'ai la même pensée négative par rapport à moi-même. Ce qui m'exclut la possibilité de me connaître, si je ne peux pas me connaître entièrement, parce que ce que nous sommes dans l'esprit juste de notre réalité est un être absolument parfait et impeccable, sans blême, sans défaut, sans aspect négatif du tout, le moindre aspect négatif. Donc, le fait que je garde un aspect négatif sur moi-même mais que je vois chez un autre, ça me coupe de cette vision, ça me rend aveugle à cette réalité que nous sommes, que je suis. Donc, ça c'est pour commencer une petite discussion que j'allais faire sur le paperboard sur les relations d'amour, d'amour particulières. Pour revenir un moment sur un plan vraiment basique des choses de cette vie ici, la façon que nous nous comportons dans nos relations avec notre famille, des parents, des enfants, nos bien-aimés, nos amis, les gens avec lesquels nous considérons, nous avons une relation d'intimité ou une relation amicale ou familiale, et qu'il y a une couac. Une couac dans le sens que, voilà, il s'est passé quelque chose et nous avons certaines réponses. Il se passe quelque chose chez nous. Et on va juste faire un petit brainstorming pour faire une petite liste des gens de ressentis. Des gens de réponses que nous donnons à la personne qui nous a fait une sorte de croche-pied. D'accord ? Donc, commençons petit. Une fois que vous avez constaté un petit instant de déception, un petit souci, un petit problème, c'est quoi les différentes façons que ça réagit chez vous ? Et qu'est-ce que vous en faites ? D'accord, donc il y a une ressenti, donc il y a un ressenti d'agacement. D'autres ressentis? Incompréhension. Trahison. Oui, ça c'est dit. Tous les ressentis, effectivement. Donc, souffrance. On va juste dire qu'il y a un aspect de souffrance. Et qu'est-ce qu'on commence à faire ou dire? Est-ce qu'on fait ou est-ce que vous êtes... Est-ce que vous dites rien? Vous ne dites rien, vous êtes vraiment au-delà de tout ça. Hein? On justifie. Est-ce qu'on peut dire que... Hein? Bon, ça c'est bien. Là, on commence à... Ouais. Et les mots qu'on utilise souvent, c'est tu as fait où il fallait pas. Oui, tu comprends rien.
Tu aurais dû.
Il fallait pas. Tu aurais dû justifier, blâmer.
Souvent, on culpabilise aussi.
On culpabilise, oui. Pourquoi pas? Culpabilise. Culpabilise. Est-ce que vous essayez de vous expliquer avec l'autre personne? D'accord.
C'est souvent une défense.
C'est souvent une défense. Expliquer. On essaie d'expliquer entre guillemets avec quelqu'un. D'accord. Un petit peu plus coriace. Hein? Oui. Et une expression de colère, c'est en... On crie,
ouais,
on claque la porte,
on
hein, t'as rien compris, et comment est-ce qu'on fait,
tu ne m'écoutes pas.
Ce n'est pas ce que j'ai dit, d'accord. Donc, il y a personne qui essaie de manipuler. Non, vous connaissez pas ça.
Oh.
Oui, manipulation, un coup de colère et donc vous n'êtes pas les gendres à rassaisir, ressasser le passé. Non, oh non, le passé est magnifique, mais ça donne une richesse.
C'est toujours pareil.
Voilà, le mot toujours, j'adore le mot toujours. Comment? Rancune. Et plus loin encore, si vraiment il n'y a pas de solution.
Si tu
m'aimais. Ah! Si tu m'aimais. Ah, l'ultimatum, voilà. Si tu m'aimais. Donc, ultimatum, d'accord. Et l'ultimatum, c'est si tu ne changes pas, si tu règles pas ça.
Ah, si tu n'es pas content, tu peux t'en aller.
C'est curieux. Dans ma tête, j'avais plutôt si tu règles pas ça, je m'en vais. Et toi, t'es bien chez toi alors. On voit les nuances. Chacun sa façon de concevoir des trucs. On va se séparer. Va-t'en. qu'est-ce que j'ai eu ici? Je vais. J'aurais dû préparer juste une autre papier ici. Parce que j'avais une feuille là. ça ira. C'est, Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est une sorte d'échelle. D'échelle de réaction. C'est pour prendre du début une relation d'intimité, intimité comme ça. Puisque nous sommes séparés de notre source, on ressent qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, au lieu de retourner vers l'origine du problème dans notre décision de prendre la main de l'ego, au lieu de prendre la main du guide qui occupe notre esprit juste, et dans le langage chrétien du cours, c'est Jésus ou le Saint-Esprit, qui sont des êtres vraiment vivants pour nous dans cette tradition. Mais chacun définit cette guide et cette présence comme il veut. C'est juste important que vous trouviez votre façon d'incarner, donner une voix à cette voix de pure sagesse aimante. Ça, c'est important. Tant que nous considérons que nous sommes séparés et dans l'esprit fou, nous allons avoir besoin d'un coup de main à l'intérieur de nous. Dans l'esprit fou, nous avons le nom pour le guide qui gère ce domaine-là, c'est l'ego. Et voilà, c'est à vous de trouver le nom qui correspond pour vous, du guide ou de la présence d'amour pur qui occupe votre esprit juste. Je vais souvent utiliser juste guide de l'esprit juste ou Jésus ou Saint-Esprit dans notre édition. Je me sépare, je décide de poser cette question. J'ai envie de me séparer de ma source. Tout de suite, la question est posée par l'ego. Si tu me suis, je vais te promettre des choses, des merveilles que tu ne peux pas imaginer. Le Saint-Esprit ou Jésus de l'autre côté dit, c'est de la folie, c'est ridicule. De toute façon, tu n'y arriverais même pas parce que c'est impossible. Le ciel ne peut pas être brisé. Tu ne veux même pas poser la question. Et donc, ça ne m'enchante pas. J'écoute l'ego et il a plein de promesses à me faire. Je le suis. Après, il dit, désolé, mais quand même, il y avait quelques conditions dont je ne t'ai pas parlé. Et donc, tu as tout ce monde absolument magnifique. Tu as ce corps. Tu as toutes ces différentes expériences avec 7 milliards de différentes personnes. Mais malheureusement, tu es bourré de défauts et bourré de culpabilité et de honte et de blâme et de violence et de terreur. Petit détail. J'ai oublié de te dire au départ. Okay, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, il n'y a aucun souci, je vais trouver l'amour de ta vie. L'amour de ta vie, ou l'ami, n'importe, une autre personne, va remplir tous tes besoins. Donc, je gobe encore toutes ces idées, et je pars à la recherche dans mon adolescence, autour de 16-17 ans, quand ça commence à bouger, et je commence à dire, bah oui, effectivement, ce monde n'est pas si mauvais que ça, elle est blonde, elle est belle, je suis sûr qu'elle a la réponse à toutes mes questions. Ou elle est brune. J'ai rien contre les brunes. Donc, je rencontre cette personne, et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a deux êtres manquants qui se croisent et qui pensent que l'autre peut offrir exactement tout ce qu'il veut. Pendant un certain temps, ça semble marcher comme ça. Jusqu'au jour qu'il y a la première petite déception. Le premier petit « Ah tiens, j'ai pas vu ça. » D'accord. Le jour que, je ne sais pas, son mec regarde notre nana. Hein, souvent, quand au moins ils sont jeunes, c'est peut-être ça. Ou peut-être qu'il sort avec ses copains un petit peu plus souvent. On peut imaginer, il y a plein de différentes façons que cette première déception peut arriver. Donc, premier, comment ça s'écrit ? Déception. Et ma réponse sera surprise. Et une souffrance invisible. Deuxième fois, ça se répète une semaine plus tard ou plusieurs fois. Donc, la déception monte un niveau. Et ce que j'ai mis là simplement, ça devient une souffrance visible sur le visage de la personne. D'accord? Et donc, ce que nous commençons à voir déjà à ce stade-là, avant même d'avancer vers la fin de la liste, c'est que, en fait, la personne est déjà souffrante, même à ce niveau-là. Parce que nous avons une souffrance. Si nous, le jour que nous décidons de quitter l'amour et de prendre la main de l'ego, forcément, nous sommes souffrants. Parce que cet endroit-là ne contient pas la totalité de l'amour que nous cherchons vraiment. Nous sommes manquants, nous sommes endoloris, nous avons énormément de questions et de doutes sur nous-mêmes. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que l'équilibre commence à basculer. Il n'y a plus cette lune de miel, on n'est plus dans la phase lune de miel, on est maintenant dans la phase première déception, première prise de conscience que l'autre personne ne va pas forcément m'en faire tout ce que je veux. Mais le problème, c'est que je suis devenu dépendant de ce comportement de l'autre personne. Donc, mon système que j'ai établi avec mes défauts et mes difficultés et tous mes petits problèmes cachés dépend du comportement de cette autre personne qui doit se lever le matin du bon pied de bon oeil pour me dire « Chérie, je t'adore, je t'aime » et me fait un gros bisou et peut-être aussi « petit déjeuner ». Ça, c'est mon équilibre. C'est comme ça que nous avons établi les choses. Voilà. Le jour qui se lève, il me fait un gros bisou sur le joue, il dit « Chérie, je t'aime » et il oublie le petit déjeuner parce qu'il doit partir à faire du sport avec ses copains. D'accord, ok. Deux mois après, quand il se lève, plus de bisous, « Chérie, je t'aime », pas de petit déjeuner. D'accord. Et vous imaginez la suite. D'accord. Le jour arrive... chérie, je te verrai tout à l'heure, je vais faire du sport avec mes amis. Ok? Il est déjà parti. Je ne voulais pas te déranger, j'ai fermé la porte doucement. D'accord? On peut imaginer plein de différents scénarios. L'équilibre, la déception commence à s'installer et l'équilibre, la personne toujours face à cette même question. Où est-ce que je trouve le bonheur et mon équilibre? Parce que j'avais besoin de le trouver dans une série de comportements chez l'autre personne. Ça, c'est le monde de l'ego. Il a toujours, toujours besoin de faire en sorte que son attention est portée sur l'extérieur. Le mode d'opération, le but, l'objectif de l'ego, c'est de garder notre attention toujours, toujours à l'extérieur et jamais vers l'intérieur où nous risquons de trouver la présence de l'amour. Cette personne, elle aurait pu réfléchir dans son lit, il est parti, plus de petits gestes, plus de bisous, plus de chérie, je t'aime, plutôt j'ai l'impression que voilà, il ne s'intéresse pas à moi. On voit bien sûr la possibilité d'une réflexion à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il ne m'aime pas parce qu'au fond d'elle, elle ne se sent pas aimable. Elle ne se sent pas méritante de l'amour. Parce que c'est la programmation de l'ego. Nous sortons d'un état d'amour, forcément, nous ne sommes plus dans l'amour. Nous ne sentons pas méritants de l'amour parce que nous avons déjà claqué la porte à l'amour. Mais là aussi, il y a un autre choix. De se retourner à l'intérieur et dire... d'une façon honnête, est-ce que ça veut dire vraiment que je ne suis pas aimable, que je ne mérite pas l'amour? Est-ce que ça veut dire vraiment que l'amour n'est pas là? Et avec un esprit ouvert, elle aurait pu ressentir cette présence, cette douce présence, cette confiance, et retourner son esprit, ne se laisse que quelques instants, le temps de voir que n'importe ce que son chéri lui fait ce matin-là, il n'y a eu aucune conséquence pour elle sur son bien-être, sur le ressenti d'amour chez elle. Donc, juste pour continuer cette liste vite fait, on peut dire, troisième déception, et on a déjà les premières attaques. Et les premières attaques, c'est qu'on va discuter. Chérie, tu sais que, voilà, je ne sais pas, mais d'habitude, ceci, cela, et on sent déjà quand même qu'il y a un petit peu de critique, un petit peu de commentaire, de désapprobation. Commentaire et discussion. troisième, quatrième, cinquième déception, première attaque, deuxième attaque, et ensuite nous avons deuxième attaque, jugement et critique. C'est la première fois qu'elle dit, ce n'est pas bon que tu ne me portes pas le petit déjeuner. Avant c'était, ah tiens, tu ne me portes plus le petit déjeuner. Sous-entendu, bon, tiens, maintenant c'est plus évident. Jugement, ce n'est pas bon, tu ne me portes plus le petit déjeuner, ou tu me, je ne sais pas quoi, critique. Donc, troisième niveau d'attaque, et nous avons accusation. De toute façon, tu aimes tes copains plus que tu m'aimes. Ce genre de choses. Et on peut ajouter utilisation du passé. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec ton ex-copine et elle m'a dit exactement pareil. Tu faisais comme ça avec elle. Hein? Donc c'est vraiment un problème chez toi. Quatrième. Ça va dans le bon sens. Hein? Alors, qu'est-ce qui vient après? C'est évident. Elle a fait tout ça. Elle a essayé de discuter, commencer à juger. Une petite accusation maintenant. Et elle a passé.
Au chantage.
On commence à... Oui, si tu ne changes pas. Si tu ne changes pas. Voilà. Si tu ne changes pas. Donc, menace, chantage. D'accord. Cinquième. Ok. Ah oui. Lui, il a mis bien. Vous pouvez imaginer, ça ouvre plein de possibilités. Bon. De contre-attaque et de revanche. D'accord. Et aussi. Ce qui est moins évident, mais a vraiment un effet dévastateur, c'est une rancœur profonde. Parce que, hein, profonde, parce que ça colore tout dans la relation, par la suite. Ce qui est intéressant à tirer de ça, c'est qu'en fait, c'est des automatismes. C'est des automatismes, pas simplement dans les relations intimes, mais même dans les relations les plus informelles dans la rue. Où il est censé avoir une sorte d'amitié. Vous allez à la bibliothèque, vous avez l'habitude que quelqu'un derrière le comptoir, la dame là, elle vous sourit chaque fois. Le jour, et elle vous tend les livres gentiment. Le jour qu'elle arrête de vous sourire et de vous tendre les livres gentiment, il va avoir ce petit moment de déception et ça entre dans le même cycle là. On essaie peut-être de discuter ou je ne sais pas quoi, bien sûr, on ne peut pas, et on ne les vocalise pas, mais on peut descendre là aussi. Un petit jugement dans la tête, facilement, une petite accusation, qu'est-ce qu'elle a contre moi ? Le passé, ensuite menace et chantage, si elle ne règle pas son attitude, je ne viens plus dans cette bibliothèque, je prends ma revanche, je jette les bouquins, puisqu'elle me les fait comme, puisqu'elle me les donne comme ça, je vais faire pareil, et après j'insiste à aller dans cette bibliothèque maintenant pour l'embêter. Rancœur profond. Mais l'être humain il est comme ça, hein. Mais c'est juste pour dire, c'est l'ADN. C'est des automatismes. On ne les réfléchit même pas. Ça vient automatiquement. Essayez de vous voir, essayez de regarder dans, si on n'a pas tout ça. C'est chez nous, c'est inné. Chez chacun. Il y a du boulot? Il y a du boulot. Ben, en fait, le plus que nous le regardons, le plus que nous sommes au courant, le moins on tombe dans ces pièges. Ou, quand on tombe dans le piège, on ne peut pas tomber entièrement dedans. On ne peut plus tomber entièrement dedans. Parce qu'on se voit. On se voit le faire. Le plus, c'est pour ça que je passe autant de temps sur tout ça, parce que, comme mon prof dit, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux et ne pas se juger. D'être conscient de ce qu'on est en train de faire, mais de ce point de vue d'observation, ce que le cours appelle au-dessus du champ de bataille, et on est dans l'activité de la vie et on commence à se regarder et on sent quand ça commence à monter, à bouillonner et faire son chemin. Mais maintenant, au lieu de s'extérioriser et s'exprimer comme ça a toujours fait, vous n'arrivez plus de la même façon, avec la même conviction. Vous n'arrivez plus parce que, quelque part, vous retenez l'idée en vous que ce comportement n'est pas entièrement justifié. Parce que c'est quelque chose chez vous, c'est une série de choix chez vous, chez moi, basé sur une fausse idée au départ, que je suis un être souffrant et sensible. Et par la suite, c'est décliné, une fois que j'ai accepté ce faux problème, cette fausse définition de moi-même, il y a toute cette déclinaison de différentes expressions de cette souffrance, extériorisée vers l'extérieur, parce que l'ego définit le problème comme venant de l'extérieur. Mais maintenant, vous n'êtes plus aussi dupe. Vous n'êtes plus dans cette inconscience totale, cet automatisme total. Et ce n'est pas grave, c'est vraiment essentiel de savoir, ce n'est pas grave si vous retombez dedans. Il n'y a pas de péché. Ici, il y a des comportements qui sont extrêmement ancrés, extrêmement difficiles à déloger. Chacun a ses cycles, a ses boucles, a ses manies, a ses habitudes, ses façons d'incarner, exprimer son individualité, son esprit faux. Elle est extrêmement critique. Lui, il n'est pas critique, mais qu'est-ce qu'il est impatient. À la fin, oui, c'est la même chose. Mais donc chacun doit développer cette patience, cette tolérance, cette compréhension, cette douce compréhension pour son chemin, pour le temps que ça va lui prendre pour faire ce chemin. Donc juste pour dire que être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux et se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Nous allons avoir aussi bien d'autres informations par rapport à l'esprit juste, mais ça c'était important. Une autre fois, quand nous avons un peu plus de temps, je vous parlerai de ce que nous appelons les cycles de culpabilité-attaque, ce qui est principalement ça, et les cycles de attaque-défense. Parce que une fois que j'ai attaqué, je sais quelque part que c'est une attaque injuste. Tout le monde qui attaque, au fond de lui, sait que l'attaque n'est pas méritée. Si j'ai réagi négativement par rapport à l'extérieur, quelque part, je sais que je possède la clé pour être mieux, mais je ne l'utilise pas. Donc forcément, mon attaque sur l'autre n'est pas justifiée. Quelque part, chacun le sait. Quelqu'un qui attaque un autre ne peut pas être tranquille. C'est une impossibilité. Il peut penser qu'il est « Ah, qu'est-ce que j'ai bien déchargé ?» Et la psychologie, depuis un certain temps, chante les éloges de l'expression de la colère. Dans certains cas, ça peut être utile quand la personne a vraiment une incapacité, a peur de sa propre colère. Mais pour la plupart, ça maintient le problème, ça ne le résout pas. Parce que la colère est toujours une façon de culpabiliser l'extérieur. De dire, c'est l'extérieur le problème, je ne possède pas la solution, la seule chose que je peux faire, c'est d'accuser l'extérieur de ne pas être ce que je veux. Mais ça ne remet jamais en question la source de la colère, qui est ce sentiment de défaut énorme à l'intérieur, qui nous est infligé à l'instant que nous avons quitté cet endroit tranquille en nous. Donc, une autre fois, quand on a un peu plus de temps, on parlerait de tout ça. Je vais vous parler juste une minute d'une métaphore que nous utilisons souvent, qui est particulièrement applicable pour tout ce qui est les relations. c'est l'idée d'un projecteur. Parce que nous avons parlé beaucoup de la projection. Nous pouvons poser la question, pourquoi toutes nos relations, surtout les relations intimes, commencent à se ressembler après un moment. Pour ceux entre vous qui sont passés par plusieurs relations, peut-être, et le ton de ces relations commence à se ressembler d'une personne à une autre, comme on dit, la même personne, visage différent, avec un visage différent. Nous pouvons poser la question pourquoi ça se passe comme ça. Et cette métaphore du projecteur de film, ça peut nous aider. Si j'ai un problème avec l'extérieur, l'ego me dit c'est l'extérieur où le problème réside, demeure. Il faut que j'aille dans le monde pour changer ce problème, comme chez quelqu'un. Il faut que je change mon mec qui ne me porte plus le petit déjeuner au lit. Il faut que je le change. Il faut qu'il fasse ce qu'il faisait avant quand même. Ben, ça, c'est peut-être un peu banal. Mais mettons qu'avant, c'est quoi le genre de choses dans un couple qui rentrait à des heures normales pour les enfants et pour s'occuper de la maison un petit peu pour être présent. Il faut que je change le comportement de cette personne pour que les choses aillent mieux. D'accord. Je dis pas qu'il n'y a pas de conséquences, on parle uniquement de l'expérience de la personne. Dans ce monde, il y a des comportements qui marchent mieux, des comportements qui marchent moins bien, c'est sûr. Mais ici, en l'occurrence, on parle de l'expérience de chacun par rapport à cette question, est-ce que je suis profondément bien avec ce qu'il fait, même si je dois m'organiser autrement parce qu'il ne va pas faire, ou est-ce que je vais tomber dans ce coup de colère, ce coup de rancune, et je vais le culpabiliser jusqu'à ce qu'il fasse ce que je veux. Donc, l'ego nous dit, le problème à l'extérieur, règle à l'extérieur, tout ira bien. Le coup nous aide à comprendre que le monde est une sorte d'écran. Ma famille est une sorte d'écran sur lequel je vois projeter tous mes ressentis, tous mes sentiments, tout le contenu de mon esprit est projeté sur l'écran de ma famille. Ça veut dire simplement que si j'ai une tache sur la pellicule du film qui joue à l'intérieur de mon esprit, où est-ce que je vais voir cette tache? Sur chaque scène de mon film, partout. Donc, un petit souci ici, je vais le voir soudain partout. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui sont frustrés. Ce n'est pas juste frustration peut-être dans la famille, mais il a un ressenti de frustration. Rien va vraiment comme il faut. Et lui, il dit, non, c'est parce qu'au supermarché, ça ne bougeait pas aussi vite. Au travail, il y avait mon patron qui est parti exactement la semaine que moi, je voulais prendre pour mes vacances. Il y a toujours un point de frustration. Il est convaincu que le problème est toujours dehors. Or, la frustration, c'est la tache qui est sur la pellicule, la pellicule de son film à l'intérieur. La tache dont on parle le plus souvent, c'est la tache de la culpabilité. Encore, c'est la culpabilité de ce sentiment de défaut qui a besoin d'être comblé, qui a besoin d'être réglé, toujours. Et c'est pour ça que n'importe où on va, on peut voir des défauts. Les gens qui sont hypersensibles, c'est ça. Il y a un défaut sur le film à l'intérieur. Donc, c'est projeté à l'extérieur, n'importe où ils vont, et ils ressentent le défaut dans l'environnement. Donc, c'est juste une petite métaphore qu'on va utiliser de temps en temps. Je voulais le glisser là, parce qu'on va revenir dessus. Ça devient très pratique à des moments pour expliquer... pourquoi c'est inutile d'essayer de changer les choses à l'extérieur. Si on n'approche pas le problème à l'intérieur, dans le ressenti, notre situation ne va pas changer. On peut changer les scènes sur l'écran. On peut changer de partenaire, on peut changer de boulot, on peut changer de voiture. Mais le ressenti que je vais récolter par la suite ne va pas changer si je ne change pas le film. Et ça devient utile pour faire la distinction entre une solution dans le monde, dans l'extérieur, et une solution à l'intérieur. Comment nous, il est quelle heure? Parce que nous avons commencé un peu plus tard. Hein? 10h05. Mais on a dû commencer assez tard, c'est ça? Vers 9h05, moins 10 par là. Je peux prendre un peu plus de temps. Je peux prendre un peu plus de temps là. Parce que il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir faire, mais d'autres choses qui ça sera sympa de commencer un petit peu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour finir, pour avancer vers le pardon et finir cette discussion sur les relations, ce que nous allons retenir de la façon que l'ego utilise les relations et utilise le monde d'ailleurs par la même occasion, c'est toujours de fixer notre attention sur l'extérieur. La devise pour lui, c'est toujours « règle l'extérieur et tout ira mieux ». C'est là où il y a le problème, encore parce qu'il ne veut surtout pas que nous retournions à l'intérieur vers notre décideur, où nous allons retrouver l'esprit de l'amour qui nous offre une solution complètement différente. Et le coup utilise le coup dit que il nous met dans un état sans esprit, mindless. Il n'y a pas vraiment un très bon terme en français, mais c'est un état sans esprit. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas conscients que nous avons un esprit, mais un esprit au-delà de ce monde. Nous pensons tous que je n'ai qu'un esprit, et c'est dans ce monde, c'est fixé dans ce corps, c'est fixé dans ces perceptions ici, et pour nous, ce n'est pas vraiment l'esprit, on dirait plutôt le cerveau ou la personnalité. Tellement c'est ancré et identifié avec le corps, nous ne parlons pas vraiment d'esprit, parce que pour la plupart d'entre nous, esprit a vraiment une idée, une connotation de quelque chose qui n'est pas corporel. N'est-ce pas? Et c'est une nuance très importante parce que ça nous aide à comprendre qu'il peut avoir un état non corporel. Il peut avoir un endroit où est située une faculté de réflexion qui n'est pas corporelle, qui n'est pas basée dans le corps. D'où nous pouvons commencer à faire nos expériences d'observation, nous pouvons commencer à observer ce qui fonde nos corps. Comme si on est juste à un pas de recul de nous-mêmes, en train de nous regarder faire ce que nous faisons, d'habitude. Le bouddhisme a plein d'exercices comme ça, je crois, si je ne me trompe pas, et d'autres spiritualités aussi. Le cours est loin d'être le seul qui a ce genre d'exercice pour nous aider à développer cette faculté de nous observer, de regarder ce que nous sommes en train de faire. L'ego veut surtout qu'on pense qu'on ne sache pas qu'il y a un intérieur. Et là, il y a un intérieur, il y a un esprit. Pour lui, il n'y a que l'extérieur. Et c'est pour ça que ce monde est tellement fixé comme une addiction sur l'extérieur. Absolument tout se passe à l'extérieur. Regardez la télé et les films, la solution pour chacun, pour chaque personnalité, c'est toujours quelque chose qui doit se passer à l'extérieur. Les scènes d'amour, les scènes de bonheur, les histoires qui finissent bien, il y a toujours quelque chose, une condition dans l'extérieur qui fait en sorte que la personne est mieux ce qu'il était au début du film. C'est pour garder toute notre attention justement sur l'extérieur. Et donc là pour finir, la seule chose que nous devons dire pour finir cette discussion des relations particulières, c'est de dire si nous sommes honnêtes, nous pouvons voir que cette façon de faire une relation d'amour particulière n'est pas particulièrement aimante. En fait, ça ressemble et c'est identique à la relation de haine particulière. La seule différence, c'est que le point de départ, on dit que le point de départ est un point d'amour, un point d'attache avec la personne, ou je dis que ce qui me lie à cette personne, c'est une certaine intimité, une certaine certains désirs, certains désirs, envie d'être proche. Or, avec quelqu'un que je n'aime pas d'une façon flagrante, il n'y a pas une histoire d'amour, il n'y a pas de question d'aimer ou de vouloir aimer la personne. Mais sinon, la dynamique derrière est exactement pareille. Je suis largement capable de traiter la personne que j'aime exactement de la même façon que je traite mon ennemi. Largement capable, voire pire. Mon ennemi, je claque la porte et basta. Ma femme, malheureusement, elle en prend beaucoup plus, souvent. Donc, les relations d'amour particulières sont souvent plus dévastatrices que les relations de haine particulières où c'est plus franc. C'est plus franc. Puisque dans les deux cas de figure, dans les relations de haine particulière, relations d'amour particulière, nous voyons cet aspect d'attaque, cet aspect de rancune, cet aspect de capacité de vouloir prendre sa revanche, les accusations, l'utilisation du passé, nous pouvons voir qu'il y a vraiment une violence dans les relations d'amour particulière, aussi bien que dans les relations de haine particulière. Ce qui veut dire, en fin de compte, que les relations pour l'ego, dans le monde égo, il n'y a que de la violence. Au moins en potentiel. Et encore, la seule raison que je parle de tout ça, c'est parce que le plus que nous sommes conscients des offrandes et des promesses de l'ego, le plus nous pouvons dire « Waouh, ça ne me plaît pas. Waouh, il y a vraiment... Mais c'est vraiment nul. C'est vraiment désagréable. Je veux dire... je n'aime pas tout ça, effectivement, je voudrais vraiment trouver une autre solution. Au lieu de constamment insister que le monde doit faire ce que je pense qu'il doit faire, que les autres doivent faire ce que je pense, je voudrais vraiment trouver une autre façon de faire. Et c'est là où nous pouvons basculer à cette discussion sur le pardon. Quand nous parlons de l'esprit juste et du pardon, c'est le domaine du miracle qui est... Mais toi, tu vas faire tomber toutes ces jolies petites choses, mon petit chaton. Oui, mais il y a l'autre chat qui est ici, donc c'est un peu compliqué. Toi, tu ne touches pas, là, voilà. Il voit, il regarde l'autre télécommande, hein, il a son œil dessus. Qu'est-ce que je peux faire tomber maintenant? Ah oui, d'accord. Pour parler, on va aller tout de suite peut-être dans le vif du sujet parce que sinon on risque de ne pas avoir assez de temps. L'essence du pardon, l'essence de cette petite technique pour basculer dans l'esprit juste, est simplement une question de se responsabiliser dans l'affaire. De son ressenti, de la pensée qui traverse notre esprit. C'est une façon de dire, ça suffit, j'en ai assez, avec la façon que l'ego possède et gère ma pensée, il y a autre chose. Mais d'abord, je dois me responsabiliser dans cette façon de faire. Donc, nous parlons en fait de trois étapes. Et en fait, j'aurais dû prendre... Le paperboard, effectivement, je sais, elle l'a pas ici. On peut le mettre dessus, hein? Encore, ça va. On va la présenter d'une façon un petit peu un petit mécanique, si vous voulez, ce qui veut dire étape par étape et tout. Mais la façon que ça se passe vraiment chez chacun, c'est une façon beaucoup plus intuitive, voire même instantanée. Donc les trois étapes du pardon, et puis vous allez, je vais le mettre sur le site, donc vous n'êtes pas obligé de tout noter si vous voulez. Donc, pendant les trois étapes, la première étape est celle-ci. C'est l'instant où je dis, Est-ce que l'autre est vraiment en train de m'infliger quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment pas un choix dans ce que je ressens ici? On met le point d'interrogation dans le monde. Souvenez-vous peut-être sur le chemin, l'ego commence à jeter des points d'exclamation dans le monde. Voilà ce que tu me fais, voilà ce que tu m'as fait. Et à un moment, l'individu dit, j'ai plus envie de faire ça. Je suis épuisé par mes différentes façons de dire, je veux que tu changes, regarde ce que tu m'as fait. Voilà, il faut que ça change maintenant, sinon. Je veux être heureux. Ça commence avec ça. Je veux être heureux maintenant et je ne veux pas que mon bonheur dépend de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. C'est une façon de dire, je veux être le maître de mon expérience de la vie et de mon monde. Et je ne peux pas te contrôler, je ne peux pas contrôler les événements dans le monde, je ne peux même pas contrôler ma voiture, la circulation, les gens au supermarché, dans mon entreprise, le gouvernement. Je ne peux même pas contrôler des fois le marteau dans ma main. Il va là où il veut aller. Il y a tellement de choses que je ne peux pas contrôler, mais par contre, je peux choisir ce que je veux ressentir. Voilà. Donc ça commence vraiment avec cette prise de conscience très puissante. Et ce que nous sommes en train de faire à cet instant précis, c'est que je suis en train de ramener, je ramène, c'est comme ça s'écrit, la projection à la maison, chez moi. C'est-à-dire, j'arrête de dire c'est toi et je commence à dire c'est moi. Et mine de rien, c'est une énorme étape. Parce que ça inclut l'idée que le pouvoir de choisir ce que je veux ressentir est aussi chez moi. Il y a quelques nuances là qui font en sorte que c'est en fait. Normalement, cette étape-là. Souvent les gens ils sont déjà heureux de faire ça au lieu de continuer à accuser les autres, de dire j'ai plus envie d'accuser, d'accord, je peux discuter, je peux continuer à essayer de changer ce qui se passe autour de moi, mais je veux plus faire avec ce ton d'accusation, je veux faire plus en égalité, je veux plus faire avec l'idée que même si l'autre ne le fait pas, d'accord, une partie de moi j'aurais préféré que ça soit autrement, mais je ne serai pas réduit à zéro, je ne serai pas décomposé, parce qu'il y a des réserves, il y a quelque chose en moi, un endroit où je peux puiser plus de bonheur, plus de satisfaction. Je ne suis pas obligé de faire en sorte que chaque situation s'accomplisse comme je pense qu'elle doit faire. Voilà, j'ai couvert à peu près, voilà, à peu près l'essentiel là. C'est à l'instant où on dit, je n'ai plus envie d'être victime. Encore un mot que je n'ai pas utilisé beaucoup jusqu'à là, mais qui fait partie vraiment intégrale de la philosophie du cours, de la psychologie du cours. C'est l'instant où l'individu se rend compte à quel point qu'il se met en victime et qu'il joue le film du victime. Et l'instant où il dit « Je ne me sens pas bien en victime. Voilà. J'ai envie de connaître autre chose, une autre expérience. » Donc on peut dire que ça c'est étape numéro 1. Étape numéro 2. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, ça c'est particulier. Intéressant, c'est qui chatons et vraiment ils s'amusent bien avec les paperboards. Voilà, c'est là pendant l'étape 2, c'est là où je commence à voir ce qui est à l'origine du problème. Effectivement, il y a un problème et on vient de dire en étape numéro 1, ce n'est pas chez l'autre. Je ne veux pas que le problème soit chez l'autre, sinon c'est foutu pour moi, je ne peux rien faire. Non, il y a une condition. Je ne suis pas heureux, c'est vrai. Il y a quelque chose qui me gêne, un sentiment de défaut, de quelque chose d'effectueuse. Mais ce n'est pas chez l'autre, ce n'est pas dans le monde, c'est en moi. C'est à cet instant-là que je me rends compte que, en fait, l'attaque que j'ai ressentie avant, le gêne que j'ai ressenti avant, en fait, c'est une attaque que je faisais à moi-même. C'est une attaque que je me faisais, que je lançais contre moi-même, qui a commencé à l'instant que j'ai décidé de quitter le domaine de l'amour dans mon esprit, l'endroit aimant dans mon esprit. J'avais un choix. L'instant que j'ai décidé de quitter l'amour, c'est l'instant où j'ai été infligé de ce sentiment de mal-être et de douleur. C'est ça la cause du problème. Je reconnais, pendant l'étape numéro 2, je reconnais la pensée de séparation en moi. La pensée de séparation ou de la séparation ? De séparation. Et c'est une phase critique et c'est une phase assez dure. Et ça peut être même violent si on ne passe pas vite sur la troisième étape dont on va en parler maintenant. Parce que c'est là où on commence à se rendre compte que l'ennemi est en moi. Jusque-là, c'était facile. L'ennemi était toujours à l'extérieur. C'est fastoche. C'est le gouvernement, c'est Sarkozy, c'est le maire de Sarlat, c'est ma copine, je ne sais pas. C'était très facile, la projection est magnifique. Ça donne une espèce de soupape, ça donne une solution tellement facile. Mais quand on ramène le problème à la maison, on dit non, je n'ai plus envie de voir le problème là. On reconnaît que la colère, la montagne de colère qu'on a en soi, en fait, ça bouge à l'intérieur et c'est une série de choix que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Nous contenons tous ce meurtrier, cet assassin. Il est là en nous. Donc, c'est là où on doit vite passer en fait, à l'étape numéro 3. Et donc, ce qui est, j'approche l'amour à l'intérieur pour partager sa perception de moi et de la vie. Alors, je vais faire comme ça, tant qu'à faire. La présence de l'amour pour sa perception. Yep, c'est bon. Critique essentielle. Sans cette dernière étape-là, on s'écroule là. Parce qu'on est accablé par notre propre critique sur nous-mêmes. On arrive à faire ça. Oui, c'est pas lui le problème, c'est moi. Ça, on est toujours dans l'ego là. L'ego n'a pas de problème à dire c'est pas le monde qui est foutu, c'est moi. Donc l'ego peut faire cette étape. Ça ne le gêne pas du tout. Et quand je parle de l'ego, je parle de notre ressenti d'individualité. Donc c'est nous, c'est encore nos habitudes, nos anciennes habitudes, nos automatismes de pensée. C'est cette étape-là qui est vraiment magnifique et géniale. Mais plus difficile parce que nous devons approcher l'amour à l'intérieur de nous, qui est cet endroit de pardon magnifique. Et d'une façon ou d'une autre, cette partie de nous va communiquer qu'il n'y a pas de problème mon enfant. Ou il n'y a pas de problème ma sœur. Et mon frère, nous t'aimons entièrement, intégralement, toujours. Notre amour est là pour toi et il ne peut pas être dissous, il ne peut pas partir, tu ne peux pas l'effacer. Cet amour sera pour toi pour toujours. C'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ton réconfort dans toutes les situations. Tu as fait des bêtises. Mais ce n'est pas des péchés. Il n'y a rien que tu as pu faire, que tu puisses faire, qui peut t'exiler, t'exclure du foyer de ton Père céleste, de ton parent céleste. C'est ça cette étape magique, c'est ça le pardon, c'est ça le miracle dans le coup aux parents. C'est l'instant qu'on se pardonne. Le pardon est toujours pour nous-mêmes, en guise d'être du pardon pour l'autre, en guise d'être un relâchement d'un jugement sur l'autre, on se rend compte que de toute façon, ce n'était jamais vraiment lui qui était en tort. Bien sûr, il a peut-être fait des bêtises, et bien sûr, les autres ne sont pas toujours dans l'esprit juste, ça sera trop beau. Est-ce que moi je suis toujours dans l'esprit juste? Bien sûr que non. Donc les autres, ils ont également, facilement également le droit d'être dans l'esprit faux. Ma question, c'est toujours, ça, elle sera comment ma réaction par rapport au choix de l'esprit faux chez les autres? Est-ce que moi je vais suivre leur exemple et me référer à mon esprit faux face à leur esprit faux? Eux, ils sont tombés dans ce sentiment de défaut intérieur. Ils ont fait une bêtise. Peut-être ils m'ont gueulé dessus et ça n'avait rien à voir avec moi. Qu'est-ce qui sera ma réponse? Est-ce que je vais regarder cette personne qui a pété un câble devant moi et je vais dire, je ne peux pas croire qu'il a pu me faire ça, non, mais c'est impossible. Et je, voilà, notre première page en bas, accusation, revanche, je ressaisis le passé, ceci, cela, toutes ces différentes stratégies de l'ego. Ou est-ce que j'ai dit, d'accord, il est dans son esprit fou, mais est-ce que, comme mon prof Ken, il dit, qu'est-ce que ça a à faire avec moi qu'il soit dans son esprit faux? C'est son choix. Ça n'a rien à voir avec moi et avec la présence de l'amour en moi. Il ne peut pas enlever mon choix pour l'amour, la présence de l'amour en moi. C'est une impossibilité. C'est pour ça que nous disons dans nos cours... C'est une partie de la tête complètement, c'est fou. Que je ne pardonne jamais un frère pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il n'a pas fait. Parce que la condamnation que j'ai faite envers lui, c'était, d'accord, peut-être dans ma forme, c'est qu'il a cabossé ma voiture ou autre, mais c'est pas pour ça. Le fait qu'il a accidenté ma voiture, c'était juste une excuse pour dire, tu m'as enlevé la paix de Dieu, c'est toi qui es responsable pour la destruction du ciel et maintenant j'ai plus l'amour de Dieu avec moi. Je sens que ce manque énorme en moi, cette absence d'amour et de tendresse et les anges qui chantent, ce n'est plus chez moi et c'est parce que tu as buné ma voiture. C'est une excuse pour extérioriser mon problème sur l'autre pour trouver une raison pour dire j'ai trouvé le criminel dans le crime existentiel, dans le crime cosmique, et c'est ce conducteur de voiture qui a endommagé ma voiture. C'est une projection, c'est une excuse. Donc je veux plus faire ça. Je dis non, j'ai plus envie d'avoir ce ressenti par rapport à ce monsieur maintenant, ou peut-être c'est moi qui a accidenté sa voiture, et il a pété le câble, d'accord, et il vient à ma fenêtre et il commence à me menacer comme ça. D'accord, je vais me défendre, je veux dire, je vais prendre des précautions, je vais garder la fenêtre, machin et tout, mais à l'instant que je commence à avoir une colère envers lui pour son comportement, je peux être sûr que je suis aussi en train d'utiliser la situation pour entrer dans la même dynamique, pour dire, c'est lui qui a enlevé la paix, le choix de la paix en moi. Non, j'ai toujours le choix de la paix parfaite en moi. Et je peux respecter que dans cette situation, il est en train d'utiliser la situation pour accéder son esprit faux, pour dire que c'est moi qui ai enlevé la paix de Dieu chez lui. Il s'est servi de cette situation pour dire que le problème cosmique dans sa vie, c'est moi. Or, à l'instant qu'il veut retourner à l'intérieur il va trouver un endroit magnifique, dans une paix totale en lui, il va à peine voir l'accident de sa voiture. Il va à peine le voir. Ah oui, tiens, oui. Effectivement, il faut qu'on échange des papiers et tout ça. Bon, faisons ce qu'il faut. C'est cette étape-là entre 2 et 3 qui est vraiment essentielle et le plus difficile, ce qui est le sujet que je voulais faire la séance prochaine, on va voir, ce qui est notre difficulté d'approcher l'amour. Pourquoi nous ne le faisons pas? Si c'était si facile, on l'aurait fait depuis longtemps. C'est essentiel que nous parlons un petit peu de ça, parce que maintenant que nous savons que cette magnifique paix autour de nous à chaque instant, nous pouvons nous poser des questions. Mais pourquoi je ne le choisis pas plus souvent? Et pour couper court, c'est parce que nous sommes tellement accoutumés, vraiment avec une idée d'accoutumance à notre sentiment d'être nous-mêmes, notre sentiment d'individualité, que la présence de l'amour, nous le ressentons comme une menace, comme quelque chose qui nous fait peur, parce que c'est plus grand. C'est plus grand, c'est plus abstrait, c'est plus général, c'est plus universel que notre présence individuelle. Donc c'est impressionnant, c'est intimidant. C'est pour ça que nous prenons ce chemin très lentement, très progressivement. Et j'adore ce chemin pour cette raison. Il n'y a pas de grand moment de découverte. Des fois, pour certaines personnes, apparemment, ça arrive comme ça. En 25 ans, ça n'est pas encore arrivé. Des moments où on commence à aller un petit peu plus vite. Et on sent quand ça commence à aller plus vite, quand les mêmes situations qui nous ont agacés tellement avant nous agacent moins, de moins en moins, au point éventuellement qu'en fait, on sent que quelque chose a bougé, quelque chose a changé. Et ce qui a changé n'a rien à voir avec l'extérieur. Ce qui a changé, c'est que vous avez pratiqué ça, de revenir ici, chaque fois que la même situation s'est représentée devant vous, vous avez choisi la présence de l'amour. Pour moi, c'était, et Patricia peut confirmer, c'était, des fois c'était sur mes chantiers, mais souvent c'était les queues de supermarché, queues au supermarché. Voilà. Des choses les plus banales. Il faut faire avec les choses banales. Il ne faut pas attaquer le plus gros. Comme quand mon père m'a fait ceci ou cela, ou ma mère m'a abandonné, ce genre de choses. Si on veut, oui, on peut essayer de faire ça. C'est plus costaud. Ça demande beaucoup plus de travail, très progressivement, très lentement. D'accord? Très doucement. Mais sinon, on accomplit la même chose en appliquant ce processus aux petits problèmes de la vie, comme dans la voiture, comme quand la voiture ne démarre pas, comme au travail. Les petites choses, parce que ce que ça nous manque, ça nous remet en contact, ça nous redonne l'habitude de passer du temps ici, en s'approchant l'amour en nous. En disant à l'amour, en s'adressant à l'amour, je sais que l'amour est présent quelque part dans mon esprit, c'est chacun, c'est chez chacun pareil. Je ne suis pas différent. Je m'adresse à l'amour en moi, dans les petites situations, je prends confiance que l'amour ne m'a pas me dévorer ou me détruire. Je prends confiance dans les petites situations. Et ça a un effet plus grand sur l'ensemble de notre vie, progressivement. C'est doux, c'est progressif. On maîtrise ce processus. À chaque instant dans la journée, on peut poser la question par rapport à notre personne, si on veut, dans une situation de relation, simplement parce que les relations incarnent le plus c'est le phénomène de projection. Puisque je considère que je suis un être humain, je m'identifie avec ça, je projette le plus facilement sur les autres êtres humains. C'est inévitable, c'est automatique. L'idée, c'est de devenir de plus en plus conscient quand je le fais, quand je tiens quelqu'un responsable pour ce que je ressens. Parce que ce n'est jamais vraiment le cas. Personne n'est responsable pour ce que je ressens. C'est impossible. Personne ne peut me faire ressentir quelque chose. C'est impossible. Je le choisis moi-même. Même dans les situations d'amour, personne ne peut me faire ressentir l'amour. N'importe ce que la personne fait, sauf si en moi, je n'ai pas décidé d'accéder à cette expérience, cet endroit. Donc on peut faire dans les relations, mais on peut aussi faire avec les choses les plus simples, les plus banales. Chaque instant de la journée, on peut dire, quand on a le petit soupçon d'agacement ou de frustration, je portais quelque chose à la voiture tout à l'heure, et tout bêtement, il y avait un instant de frustration, on n'était pas tout à fait à l'heure, pourtant on avait le temps et tout, et j'ai senti un petit instant d'agacement, encore. Ça m'arrive aussi souvent. Et puisque je suis dans ce travail, j'ai dit, est-ce que cet petit inconvénient de vraiment rien du tout a enlevé la présence magnifique de la paix et l'amour de Dieu de ton esprit et de ton expérience? La réponse était claire. Logiquement, non, bien sûr que non. Donc ça voulait dire, ça me mettait tout de suite dans la position de responsable, de responsabilité. Moi, je savais ce qui se passait. Ce n'était plus une projection. Ah, la voiture était fermée, et j'ai toutes ces affaires là, il faut que je retourne à la maison maintenant pour prendre la clé. Non, ça n'a rien à voir avec la voiture. Et le fait que la clé est là-bas et la voiture est fermée, rien à voir. C'est moi, pour X raisons, je me suis laissé entraîner dans l'expérience de la vie ici, en pensant que mon expérience aurait été différente si la voiture avait été déjà ouverte. Qu'est-ce que ça aurait changé pour moi? Bon, d'accord, ok. Les courses auraient été dans la voiture un petit peu plus vite que s'il fallait que je retourne à la maison. Mais en fin de compte, ça ne change absolument rien de la vie ni de mon expérience. C'était une projection. Et c'est ça, nous vit ici. L'expérience que nous cherchons est entièrement à l'intérieur, dans cet endroit très spécial et magnifique qui s'appelle l'Esprit Juste, que nous ne devons pas sous-estimer. Et nous l'accédons chaque fois que nous remettons ici. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui me gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui a enlevé la magnifique présence de l'amour de Dieu, du ciel? Et logiquement, nous trouvons la réponse assez facilement, non. Donc, ça nous bascule ici. Alors, le gêne, ça vient d'où? Le gêne, ça vient d'un choix que j'ai fait pour me laisser entraîner dans le système de l'ego, qui me dit systématiquement, tu es dans ce corps, il faut maintenant que tu garantisses les meilleures conditions pour ce corps, ce qui veut dire qu'il fallait que la voiture soit ouverte pour faciliter ton passage vers la voiture. Et je vais avoir de plus en plus de mal à me croire quand je me l'explique comme ça. Je dis, c'est une bêtise. Ça ne change rien vraiment à la vie fondamentalement. Et le plus que je fais ça, le plus que je bascule ici, et quand je fais ça, quand des grands problèmes arrivent, je vais commencer à avoir cette habitude de passer plus de temps ici. Voilà. Mais on va arrêter maintenant pour la soirée, je crois. Et je ne sais pas si on a le temps de faire... Je voulais juste vous lire un petit truc, mais en fait, le petit truc est grand. Donc, je vais peut-être juste vous lire deux paragraphes. C'est de leçon 122. Le pardon offre tout ce que je veux. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur, un esprit tranquille, une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée, un bien-être profond et durable et un repos si parfait qui ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il détend ton front pendant que tu dors et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêve de peur et de mal, de malice et d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Le pardon laisse le voile être levé qui cache la face du Christ à ceux qui posent sur le monde un regard qui ne pardonne pas. Il te laisse connaître le Fils de Dieu et vide ta mémoire de toute pensée morte afin que le souvenir de ton Père puisse franchir le seuil de ton esprit. Que voudrais-tu que le pardon ne puisse donner? Quel autre don que ceci vaille d'être recherché? Quelle valeur imaginaire, quel effet banal ou quelle promesse passagère qui jamais ne sera tenue peut contenir plus d'espoir que ce qu'apporte le pardon? Pourquoi chercherais-tu une réponse autre que la réponse que répondre à tout? Voilà la parfaite réponse donnée à des questions imparfaites, des requêtes insignifiantes, un désir sans outil à enthousiasme d'entendre et moins qu'une moitié de diligence et une confiance partielle. Voilà la réponse. Ne la cherche plus. Tu n'en trouveras pas d'autre à la place. Une autre fois, je vais le continuer. Il est très joli, mais ça fait presque 3 pages. Oui, le pardon est pas mal. Donc, je pourrais aussi peut-être, je vais vous l'envoyer peut-être par. Ça c'est la leçon 122, page 223. Mais écoutez, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, nous avons une dernière séance avant l'été dans 2 semaines. Où nous allons parler, je crois qu'on va continuer un petit peu sur l'esprit juste, le pardon, et on va essayer de faire un petit peu, on va avoir un peu de discussion sur le pratique, vraiment de tous les jours, la façon que ça se déroule instant par instant dans notre esprit. Quand on croise les gens dans la rue, exactement ce qui est en train de se passer et ce qui nous traverse l'esprit, comment nous pouvons commencer à nous observer de plus en plus à partir de cet endroit clair. Bon, merci.